Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir William Ancion, délégué des gouvernements de la Communauté française de Belgique et de la région Wallonne en France, représentant diplomatique de la Belgique francophone accrédité auprès de la République française, l'UNESCO, l'OCDE et l'OIF. Monsieur Ancion, nous vous remercions infiniment d'être présent ici sur Radio Canal Académie et nous sommes très heureux de vous donner la parole, évidemment. Alors, cette Belgique que nous aimons tous, parfois on entend des choses sur la Belgique qui peuvent être un peu préoccupantes, mais au fond, elle a quand même un passé très riche, cette Belgique francophone. Est-ce que vous voudriez nous donner peut-être quelques exemples de cette richesse de la Belgique francophone si proche de la France?
Bien, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de m'introduire dans un lieu aussi prestigieux que l'Institut de France. C'est tout le plaisir et tout l'honneur est pour moi. Vous m'interrogez à propos de la Belgique francophone. Il faut savoir que la Belgique n'est pas un pays très ancien puisque sa création remonte à 1830 et que cette création qui résultait du traité de Vienne avait abouti à créer un pays un petit peu artificiel en enlevant une partie des Pays-Bas et une partie de la Wallonie pour en faire un état tampon entre les adversaires irréductibles qu'étaient à l'époque la France et l'Allemagne. Donc ce pays a, d'une manière artificielle, il faut bien le dire, fait coexister deux communautés. Une communauté qui s'exprimait en néerlandais, en flamand, oui. Et une communauté qui s'exprimait en wallon et plus tard en français. Ces deux communautés ont vécu en bonne harmonie jusqu'à un passé relativement récent, disons jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où d'abord l'attitude de l'une et l'autre de ces communautés pendant la Deuxième Guerre et puis l'attitude de ces communautés vis-à-vis du rétablissement de la royauté, du retour du roi en Belgique après son emprisonnement par les Allemands et puis son exil en Suisse. Ces événements ont apporté une dissociation entre ces deux communautés qui ont souhaité progressivement vivre avec plus d'autonomie, plus de respect de leur culture, de leur langue, la Belgique n'ayant jamais été véritablement un pays bilingue, un pays où, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la communauté de langue et de culture française était plutôt dominante, parce qu'elle représentait la partie du pays qui était la plus industrialisée, qui avait connu le plus d'essor industriel. Après la guerre, la tendance s'est exactement renversée. Le dynamisme est plutôt passé du côté de la région flamande, qui avait moins subi les dégâts et les affres de la guerre. Et par conséquent, c'est plutôt la partie sud, la partie francophone, qui s'est trouvée un peu à la traîne.
Est-ce que dans cet affrontement, entre guillemets, de l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'on peut parler d'un véritable ressentiment de la part des Flamands contre les Wallons, parce que les Wallons ont été dominants pendant un certain temps? Ou au contraire, c'est quelque chose qui n'est pas si profond que ça, qui a été un peu provoqué peut-être par des agitateurs, par des pays extérieurs. Je ne sais pas, n'étant pas un spécialiste de la Belgique, mais donc je me permets de vous poser la question aussi directement que cela.
Mais je pense qu'après la guerre, en tout cas à partir des années 60, tout particulièrement, la Flandre s'est trouvée être une région particulièrement tournée vers les technologies de l'avenir, les sciences de l'avenir. C'est un pays neuf, si vous voulez.
Ah, oui.
Tandis que la Wallonie s'est trouvée, au contraire, confrontée à une série de crises économiques provoquées par la disparition du charbon d'abord, puis la disparition de l'acier, la disparition des industries d'armement, etc. Donc, un problème de reconversion économique en Wallonie ou dans la partie francophone du pays que ne connaissait pas la Flandre.
Ah oui.
Et donc, le problème culturel s'est greffé à un problème plutôt socio-économique. Il y a eu une région qui a connu un essor plus important et qui a donc voulu disposer d'une plus large autonomie, considérant que l'autre région était un peu à la traîne et que par conséquent, On ne devait pas être toujours en train d'attendre le retardataire.
Donc c'est un problème un peu économique.
C'est un problème économique qui s'est transformé, ou en tout cas qui a fait ressurgir. Et vous le disiez tout à l'heure, y a-t-il des agitateurs ? Il y a bien sûr des hommes politiques au nord et au sud du pays qui se sont emparés de cette distanciation pour en faire, bien entendu, un argument de promotion personnelle.
Leur miel.
C'est évident, leur miel.
Leur miel.
Alors, il faut dire aussi qu'à un moment donné, la Belgique, en 1960, enfin dans les années 60, a adopté des lois linguistiques qui ont figé, d'une certaine manière, les limites de la Belgique francophone et de la Belgique flamande.
Et qui a décidé de figer ?
C'est le Parlement qui en a décidé. Ce sont des lois qui n'ont jamais été remises en question, mais qui ont provoqué bien des difficultés, puisque une frontière linguistique, fut-elle théorique, entraînait inévitablement que des territoires marginalisés n'étaient pas contents de leur sort. Et donc, il y a eu des effets de crispation sur ces petits territoires, et de là sont nés un certain nombre de leaders politiques qui ont lutté, si vous voulez, pour que le régime linguistique de cette mini-région soit modifié.
Est-ce que tout cela n'a pas, au fond, affaibli la Belgique, finalement ?
Ce que je vais dire peut paraître paradoxal. À la fois, ça l'a affaibli, même sur le plan extérieur, puisque vous disiez tout à l'heure avec raison que de l'extérieur, notamment de France, on regarde avec un certain souci, une certaine inquiétude l'évolution de la Belgique.
C'est vrai.
D'un autre côté, je peux vous dire aussi que ça a un effet d'émulation. Quand deux communautés sont en compétition, il est évident que...
Est-ce qu'on peut dire que les Flamands ont réveillé les Wallons ou pas ?
Les Flamands sont en passe de réveiller les Wallons. En tout cas, ils ont créé le sentiment d'appartenance wallon qui était peut-être moins fort que le sentiment d'appartenance flamand. Il y a donc eu un réflexe d'autodéfense, si vous voulez, des Wallons, et les mouvements wallons sont nés de cette opposition.
Je vais vous poser une question qui n'est peut-être pas très diplomatique, mais certainement vous allez savoir y répondre. Est-ce qu'on peut dire que l'une ou l'autre partie est plus ou moins tolérante ? Parce que, c'est peut-être difficile à dire, mais y aurait-il plus d'intolérance chez une des deux parties ou pas ?
En tout cas, le sentiment national ou les mouvements nationalistes sont plus forts actuellement en Flandre qu'en Wallonie. Ça n'a pas toujours été le cas. On peut dire qu'au contraire, le mouvement nationaliste wallon, lui, il est né déjà au début du XXe siècle, mais il n'a jamais pris l'ampleur de ce que nous connaissons actuellement en Flandre, où des mouvements nationalistes extrêmes ont même emporté, et emportent encore, des suffrages importants lors des élections.
Monsieur le délégué des gouvernements de la communauté française de Belgique et de la région wallonne en France, est-ce que vous êtes inquiet de l'avenir de la Belgique ou pas ? Très sincèrement.
On peut toujours s'inquiéter du fait que les choses évoluent et qu'elles n'ont pas l'air de s'arrêter. Donc nous venons de connaître un nouveau scrutin fédéral, élections législatives, et les tendances centripèdes, comment dirais-je, se font jour de plus en plus. Mais d'un autre côté, il faut savoir aussi que la Belgique, qui est le berceau de l'Europe et qui est pro-européenne à 100%, voit aussi dans l'intégration progressive au sein de l'Union européenne une espèce de filet de sécurité, un filet de sauvetage. La Belgique ne se disloquera jamais totalement parce qu'il y a un certain nombre de liens qui restent forts. La royauté en est un. Je dirais avec un peu de cynisme que la dette de l'État belge, qui est considérable, en est un autre. On ne se sépare pas sans avoir réglé ce genre de passif. Et il y en a que pour un certain temps. Mais il est clair que les communautés tant francophones que flamandes, aspirent à plus d'autonomie et que progressivement, elles acquièrent de nouvelles compétences au détriment d'un État fédéral qui se détricote progressivement, qui est remplacé, il faut bien le dire, dans beaucoup de ces éléments, par une Europe qui devrait, selon nos voeux, être de plus en plus prégnante.
Donc, au fond, il y a de l'inquiétude, mais en même temps, il y a une sorte de mutation, de métamorphose qui est en train de se faire, peut-être à l'insu même de certains partis qui voient plutôt l'affrontement plutôt que la transformation. On peut peut-être dire les choses un peu comme ça.
Il est évident qu'en tout cas, si vous vous adressez à la population belge, différents sondages réalisés par des organes de presse, des médias, prouvent que pour la majorité des Belges, qu'ils soient francophones ou flamands, ou néerlandophone, ce n'est pas la question essentielle. La question essentielle, c'est l'avenir, c'est l'emploi,
ouais.
C'est l'impôt, c'est la sécurité sociale, c'est l'Europe. Hein. Je vous dis, c'est vraiment une préoccupation importante en Belgique. Donc, c'est vrai que cette opposition apparente, et qui se traduit par des manifestations parfois un peu interpellantes, est plus le fait du monde politique que du monde économique ou du simple citoyen.
Alors, les Wallons, c'est pour le rappeler à nos auditeurs, qui sont nombreux dans le monde, bien entendu, les Wallons, c'est quelle est la population wallonne, donc francophone?
Donc, la Belgique, c'est à peu près 11 millions d'habitants et il y a 4 millions et demi de francophones et 5 millions et demi de 6 millions et demi de flamands.
Ils sont mais, un tiers en plus, quoi, disons.
Ils sont un tiers en plus. Maintenant, personne ne peut dire avec précision combien il y a de francophones ou de néerlandophones à Bruxelles, puisque depuis que nous avons établi cette frontière linguistique, il n'y a plus de recensement linguistique. Il n'y a donc plus de moyens. Il n'y a donc plus de moyens en Belgique de déterminer exactement qui parle le français ou qui parle le flamand.
On ne sait pas du tout quel est le pourcentage de flamands qui parlent le français et de wallons qui parlent le flamand.
On sait que, en tout cas, jusqu'à un passé récent, les flamands étaient beaucoup plus bilingues ou plurilingues que les francophones. Là, c'est peut-être une qualité ou un défaut que nous avons en commun avec les Français, c'est que nous ne pratiquons pas beaucoup les langues étrangères, peut-être.
C'est vrai.
Peut-être parce que nous considérons qu'avec le français, toutes les portes sont ouvertes. Je n'ai pas besoin de préciser que les Wallons sont avant tout francophiles. Hein. Je suppose que vous l'avez deviné même au travers de mes propos. Mais les choses sont en train de changer. Et les néerlandophones deviennent de plus en plus anglophones et de moins en moins francophones.
Et de moins en moins francophones et de moins en moins plurilingues, finalement, parce que si
et
c'est l'anglais
de moins en moins plurilingue.
On peut dire ça peut-être comme ça.
Et on peut dire, on peut, évidemment, la messe est dite et on ne peut pas trop regretter le passé. Mais si à un moment donné, la Belgique avait eu la sagesse de se déclarer plurilingue, comme le Grand-Duché de Luxembourg, comme la Suisse, en obligeant chacun de ses enfants à apprendre la langue de l'autre.
C'eût été avisé,
et vraisemblablement que les problèmes que nous connaissons n'auraient pas pris cette ampleur. Mais je me plais toujours à signaler à nos amis, et notamment nos amis français, qui sont un peu inquiets par la tournure des choses, nos affrontements culturels et linguistiques n'ont jamais provoqué de mort en Belgique. C'est un débat qui se passe au sein de nos assemblées nationales, au sein de...
Une violence verbale
peut-être, mais ça ne donne pas lieu à des affrontements physiques. Et je veux dire par là que chaque constitution d'un nouveau gouvernement donne lieu à un dialogue parfois musclé entre les communautés néerlandophones et francophones sur les avancées que nous connaîtrons au cours de la législature à venir. Mais ça s'arrête là, heureusement.
Canal Académie rend hommage aux grandes figures historiques de l'Institut de France. Jean-François Revel, de l'Académie française, décédé en 2006. Jacques Bainville, également journaliste et également immortel de la française, mais d'une autre génération. Les frères Rénac, grandes figures de la Troisième République, dont l'un d'entre eux, Salomon, était membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. François Arago, scientifique du XIXe siècle, membre de l'Académie des sciences dès l'âge de 23 ans. Charles Trenet et Delacroix, tous deux membres de l'Académie des beaux-arts. Roger Arnaldez, philosophe de la pensée orientale médiévale, ainsi que beaucoup d'autres figures de l'histoire des académies qui, je vous le rappelle, remontent jusqu'au XVIIe siècle.
J'ai le très grand honneur aujourd'hui de recevoir M. William Ancion, délégué des gouvernements de la Communauté française de Belgique et de la région Wallonne en France, représentant diplomatique de la Belgique francophone, accrédité auprès de la République française, l'UNESCO, l'OCDE et l'OIF. Donc vous avez vraiment une carte blanche pour agir, car je sais que vos pouvoirs ne sont pas minces. Alors voilà, je voudrais vous poser une première question, monsieur le délégué, monsieur William Ancion, les relations de la Belgique, justement, ou de la partie wallonne, plus exactement, et celle que vous représentez, surtout, avec la France. Quels sont les quelques éléments, si vous voulez, que vous aimeriez rappeler pour nos auditeurs, les points forts?
Je voudrais d'abord dire qu'entre la Wallonie et la France, il y a des liens d'amitié qui remontent à très très longtemps. On fêtera, dans quelques mois, au mois de décembre plus précisément, la présence des Wallons à Versailles, Et ce sera l'occasion de mettre en évidence tous les artisans qui sont montés des provinces wallonnes vers Versailles pour y apporter la construction de la machine de Marly, qui est due à un liégeois, les marbres qui décorent Versailles, qui ont d'autres arts dans la monnaie notamment, dans la sculpture. Donc depuis toujours, il y a eu un courant, je veux dire culturel, mais plus que culturel, entre la Wallonie et la France. Et même si la Wallonie n'était pas la France, elle ne l'a été qu'au moment du consulat de l'Empire, où nous avons été annexés, mais bien volontiers, il faut le dire, à l'Empire français. Ce courant peut remonter au premier roi de France.
Est-ce qu'il existe, monsieur le délégué, est-ce qu'il existe un dictionnaire des artisans, des artistes, des peintres belges qui ont œuvré en France ?
Il existe un ouvrage qui, assez prétentieusement peut-être, retrace la vie de ces Belges qui ont fait la France. Ah, et ce livre...
Comment s'intitule-t-il,
Ces Belges qui ont fait la France. Bon, ça s'arrête, je crois, au baron Empain, créateur le réalisateur du métro de Paris. Et je sais que pour le moment, l'ambassade recherche de la documentation pour compléter cet ouvrage.
Donc l'ouvrage s'arrête à la fin du XIXe siècle.
Il s'arrête à la Première Guerre mondiale, oui.
Mais alors, dans cet ouvrage, vous avez justement tous les artisans qui ont travaillé à Versailles.
Qui ont travaillé à la cour du roi de France, travaillé dans différentes régions, ou qui ont apporté en France des activités qui étaient peut-être moins connues ici.
Je pense qu'un nouveau tome pour le XXe siècle serait quelque chose de très apprécié. Hein.
Je pense sans prétention que les apports sont encore importants. Mais là, je précise de suite que la Wallonie n'en tire aucune vanité, parce que la symbiose avec la France est telle que, pour beaucoup de Wallons, pour réussir, il faut passer par la France.
À ce point, c'est vraiment très...
En matière culturelle, vous le voyez bien, nos littérateurs, nos artistes, comédiens, nos compositeurs montent à Paris pour réussir. C'est le cas de Simenon, je reviens du festival Simenon au Sable d'Olonne. Simenon est venu à Paris pour recommencer une carrière étonnante de littérateur. C'est le cas du musicien Grétry, musicien de la reine Marie-Antoinette, dont on va célébrer un anniversaire important ici à Versailles dans 2 ans. Donc je vous relate des événements que je vis parce qu'ils sont en préparation.
Puis-je vous faire une confidence ? Enfant, je me souviens que Verhaeren et Maeterlinck, qui étaient pourtant flamands, étaient considérés comme des écrivains... français.
Ils écrivaient en français. Et je sais qu'ils ont beaucoup de notoriété en France. Donc, sur ce plan, le courant a été toujours dans le même sens, de la même manière que, en Belgique francophone, nous nous sommes toujours nourris, et nous nous nourrissons encore de culture et de langue française. Quand vous parlez de l'Académie française, un Wallon, il a tendance à se mettre au garde à vous. Mais nous tenons malgré tout à préserver nos particularités, parce que nous pensons sincèrement que la culture française, qui a eu l'intelligence au cours des siècles de pouvoir absorber ce que l'extérieur lui apportait, que cette culture française, nous l'avons en partage et chacun doit y apporter son originalité, quitte à être un peu en porte-à-faux par rapport à ce que l'on considérait comme la culture française officielle.
Oui, il faut garder sa personnalité.
Les Québécois gardent la leur, nous gardons la nôtre, les Suisses gardent la leur, mais c'est ça qui fait l'enrichissement.
Quel est l'écrivain belge aujourd'hui, pour vous, qui est vraiment l'emblème, justement, de cette belgicitude, si j'ose dire, c'est-à-dire de cette culture tout à fait belge, qui se distingue très légèrement, ou même qui se distingue de la littérature, de la culture française, dans le domaine littéraire?
Je pense que dans les écrivains actuels, Amélie Nothomb est certainement quelqu'un qui a un style des caractéristiques tout à fait particulières. Je ne dis pas qu'elles sont particulièrement belge, mais en tout cas, elle nous apparaît, nous, comme étant un élément important de la culture française, tout en étant atypique.
Atypique
et original.
C'est vrai.
Mais celui pour lequel, bien sûr, nous nourrissons pour le moment le plus d'estime, c'est quelqu'un comme Simenon, qui est devenu un écrivain universel et qui a su créer un style qui est... comment dirais-je, qui reste original au travers des périodes. Je veux dire, si Menon est inimitable, on peut aimer, ne pas aimer, on peut s'étonner de sa production.
C'est un immense écrivain.
Nous constatons qu'il reste encore très, très actuel et que le contenu de ce qu'il écrit est rempli de sa belgitude.
Et Hergé, je pense aussi, Hergé, sans même le nommer, c'est fabuleux.
On pourrait en citer d'autres aussi, et c'est peut-être ce qui caractérise notre apport dans la culture qui nous est commune, c'est justement cette dimension internationale. Nous sommes moins marqués par des ferments propres ou locaux, si j'ose dire, et nous sommes une terre de passage en Belgique. Nous sommes une terre de passage et de brassage, et par conséquent, peut-être plus enclin à l'internationalisation que si nous étions purement enfermés,
etc. Vous qui êtes ici le représentant donc de la Wallonie, quels sont vos objectifs personnels? Qu'est-ce que vous voulez accomplir en étant ici?
Bien, d'abord,
si je me permets d'être un peu indiscret.
Oui, non, pas du tout. C'est ma mission officielle. D'abord, je suis chargé de faire connaître et comprendre aux Français que la Belgique a évolué, que c'est devenu un État fédéral composé de deux communautés majoritaires, la néerlandophone et la francophone, et que par conséquent, cela implique aussi dans les relations de la France avec la Belgique un changement d'attitude. Donc, c'est une chose qui paraît simple et qui n'est pas tellement simple.
Non, c'est pas simple.
Parce que nos institutions sont compliquées et parce que d'autre part, cette longue tradition d'amitié et d'échange entre la France et la Belgique fait que les Français n'ont pas toujours perçu les modifications qui étaient intervenues en Belgique.
On ne saisit pas toujours les nuances,
non,
c'est ça.
Et je vous comprends,
je vous oblige
à parler de communauté française de Belgique et de Wallonie, c'est pas tout à fait la même chose, mais si je devais entrer dans des distinctions ou dans des explications, ça nous mangerait tout le temps qui nous reste, par conséquent, je vais pas entrer dans cette problématique. Mais donc, ce que
j'ai
à faire connaître, c'est la Belgique telle qu'elle est maintenant. Et c'est bien sûr aussi d'encourager le développement des relations entre la communauté française de Belgique et la région wallonne et la France dans ce qui sont les compétences propres de la communauté de la région, c'est-à-dire la culture, l'enseignement, la recherche scientifique, les échanges touristiques, les échanges économiques, toutes choses qui vont de soi, mais qui vont encore mieux lorsque on peut les concrétiser, on peut les illustrer. J'ai aussi pour mission d'aider tous les Belges francophones qui souhaitent prendre des contacts en France ou qui souhaitent développer une activité en France ou qui souhaitent participer à des événements importants en France.
Donc culturel et économique, bien sûr. Et économique, bien sûr. Très bien. Écoutez, ce sont de beaux objectifs. Alors maintenant, il y a une autre question que j'aimerais vous poser. Nous sommes à l'heure de la francophonie et à l'heure de la francophonie, certains ont l'air très inquiets pour l'avenir de la langue française sur cette terre. Je ne fais pas partie d'ailleurs de ces personnes fort inquiètes, on peut l'être par moments. Et je rappelle quand même toujours à mes interlocuteurs, non pas à vous bien entendu, mais à ceux qui me posent la question, la langue française est quand même la deuxième langue parlée, ou tout au moins la deuxième langue rayonnante dans le monde aujourd'hui. Je ne dis pas en locuteur, mais en rayonnement. Est-ce que vous êtes d'accord pour être très inquiet pour l'avenir de la langue française ou non?
Mais on peut être inquiet pour l'avenir de la langue française comme on peut être inquiet pour l'avenir de toutes les autres langues sauf l'anglais parce qu'il y a une absence de diversité qui devient inquiétante dans notre monde.
Sauf l'anglais et le chinois peut-être.
Peut-être le chinois,
mais enfin.
Il faudra. Mais je veux dire que pour nous, la convention qui a été adoptée dernièrement par l'UNESCO sur la production et la promotion de la diversité culturelle.
2005.
Nous apparaît comme un élément essentiel pour l'avenir. Ce que nous ne devons pas défendre à tout craint pour le moment, c'est uniquement la pratique du français ou la culture française. Nous devons défendre le plurilinguisme et nous devons défendre la diversité culturelle. Parce que, à côté du français, d'autres langues et d'autres cultures méritent aussi notre attention. Nous devons aussi trouver des alliés contre cette culture uniforme et essentiellement commerciale que l'on tente de nous imposer, il faut que nous trouvions des alliés dans le monde entier pour préserver justement cette diversité à la fois culturelle et linguistique.
Je partage tout à fait votre vision des choses. Et quand on voit l'écroulement un peu de la langue italienne en Europe, c'est scandaleux.
C'est dommage. Et quand on voit que l'allemand également perd du terrain dans les grandes organisations internationales, dans le monde scientifique, Donc, vraiment, nous devons...
Est-ce que je peux vous poser la question? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à ma question. Mais est-ce que la France a fait ce qu'il fallait entre 1970 et l'an 2000, à peu près? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle a fait vraiment ce qu'il fallait?
Il y a une chose qui est regrettable. Je ne parle pas de l'attitude de la France, mais il y a une chose qui est regrettable dans le monde, c'est qu'on confond souvent francophonie et France.
Ah oui, tout à fait.
Et cette ambiguïté ou cette confusion a fait en sorte que la francophonie a un peu subi les aléas de la représentativité ou de la notoriété de la France à travers le monde, qui, comme tout pays, connaît des hauts et des bas. Et donc, je pense que la tâche principale de la francophonie, c'est de faire comprendre qu'elle est bien sûr la France, et la langue et la culture, mais comme je le disais tout à l'heure, qu'elle est aussi l'apport de tous ces autres pays qui partagent cette langue et cette culture, mais qui ont apporté des éléments originaux, que ce soit les pays d'Afrique ou les pays d'Asie, où on parlait dernièrement de la francophonie en Amérique du Sud, qui paraît-il est très présente, et que nous ne soutenons pas assez.
Tout à fait d'accord avec vous, connaissant un petit peu justement la francophonie sud-américaine, notamment argentine. Mais est-ce que la Belgique a joué un rôle suffisamment fort, justement, durant cette période de 1970 à l'an 2000, pour peut-être secouer un petit peu le cocotier, dire « nous sommes là, il faut aller de l'avant ». Je vous pose la question, je n'y réponds pas, bien entendu.
Je crois d'abord que la Belgique était un peu embarrassée par ses propres problèmes linguistiques. Voilà. Et par conséquent, elle n'a peut-être pas eu l'attitude offensive
qu'on aurait pu souhaiter.
D'autre part, je me répète peut-être, mais la Belgique a parfois tendance à se considérer comme la petite sœur de la France, et elle devrait au contraire affirmer, elle le fait de plus en plus, mais elle devrait affirmer, excusez-moi l'expression, mais sa belgitude francophone, sa francophonie belge, comme vous le...
Ce serait une bonne chose pour la francophonie.
Je puis témoigner aussi, puisque je siège dans les instances de la francophonie internationale, je puis témoigner aussi que la Belgique francophone, la communauté française de Belgique, comme la Suisse, comme le Québec, sont quand même les fers de lance d'une certaine francophonie internationale. Là où la France a parfois quelque embarras à se découvrir par crainte d'apparaître comme étant... de faire apparaître la culture comme une manière de reconquérir ce qui a été perdu à un moment donné.
Oui, je partage tout à fait votre vision des choses, monsieur le délégué général. Et alors, je vous remercie infiniment parce que je vois que l'heure tourne, hélas, mais ce n'est qu'un premier contact, c'est un premier entretien. Je vous remercie donc infiniment, monsieur le délégué des gouvernements de la communauté française de Belgique et de la région wallonne en France, monsieur William Ancion, qui est aussi le représentant, ne l'oublions pas, diplomatique de la Belgique francophone accrédité auprès de la République française, l'UNESCO, l'OCDE et l'OIF. Chers auditeurs, nous avons reçu aujourd'hui monsieur William Ancion, qui ne pratique pas la langue de bois et avec qui il est vraiment très agréable de découvrir cette Belgique francophone et nos amis wallons, que bien entendu nous allons continuer à découvrir au fil des mois et des années qui viennent, bien entendu. Merci infiniment.
Merci aussi.